France Culture.
Donnez-moi un corps. Donnez-moi un corps ou redonnez-moi des raisons de croire au monde, c'est pareil.
Deleuze retrouvé. 16 leçons de philosophie. David Lapoujade.
Pendant près de 20 ans, Gilles Deleuze a dispensé des cours de philosophie à l'Université de Paris 8. Nous proposons une sélection des extraits les plus marquants pour commémorer le centenaire de sa naissance. Dans les deux dernières années de cours consacrés au cinéma, Deleuze expose la manière dont les plus grands cinéastes d'après-guerre ont exploré différentes formes de temporalité, ce qu'il appelle une image-temps directe. Après avoir souligné l'importance de la mémoire chez des cinéastes comme Orson Welles et Alain Resnais, Deleuze en vient à évoquer le cinéma du tiers-monde. Dans l'extrait que vous allez écouter, daté du 22 novembre 1983, Deleuze voit dans ce nouveau cinéma l'expression d'une mémoire du monde. 11e épisode, les nouveaux cinémas, la mémoire du monde et le cérémonial des corps. Cours du 22 novembre 1983 et du 13 novembre 1984.
Je crois que les cinémas, une idée sur les cinémas du tiers-monde, ce qui me frappe, c'est que, de manière très différente, je ne prétends pas en faire une catégorie hein, entre le cinéma indien, le cinéma philippin, le cinéma marocain ou égyptien, tout ça. Je dis, s'il y avait une constante, pourquoi qu'il n'y aurait pas une constante? Tout comme on peut parler de l'expressionnisme allemand, pourquoi on ne pourrait pas parler d'une certaine manière, cinéma du tiers-monde? Hein, je dis, moi ce qu'ils ont de commun, c'est la construction directe d'une mémoire. On dirait c'est une platitude. Non, ça s'explique. C'est pas du tout qu'ils souhaitent se rattacher au passé, d'abord, c'est très évident. Alors du coup, j'ajoute la construction d'une mémoire non psychologique. Il ne s'agit pas de se retrouver des racines, c'est pas ça. C'est que l'oppression, la misère, la colonisation, quoi que ce soit. Il y a des cas très très différents dans tous ces pays. On fait véritablement une rupture de leur chronologie. Une espèce de faille chronologique. Alors ça peut aller sous la forme, oui, ah ben oui, on leur a volé leur passé. Mais ça peut avoir des formes plus compliquées. Une espèce de faille chronologique. On n'aura pas seulement volé leur passé, on les a transplantés, on les a exportés, on les a mis dans d'autres territoires, etc. Bon. Si bien qu'il ne s'agit pas pour eux de se reconstituer une mémoire. D'abord, leur gouvernement détesterait ça, ça serait rien à la rigueur. Mais ce n'est pas ça le problème, se reconstituer une mémoire, ça n'a jamais servi à personne. Ce qui sert beaucoup, c'est, et ça c'est beaucoup plus embêtant, beaucoup plus agressif, c'est servir au monde de mémoire, constituer un lieu qui ne peut être qu'une mémoire du monde. Parce que ça embête le monde. Où en est ma mémoire hein, même la mémoire d'un peuple, pas grave. Mais qu'un lieu, c'est le mystère laïque de l'oppression. Je veux dire, le mystère chrétien, c'est quoi? C'est en tel petit village. Le Christ est né, l'universel s'est incarné. Vous avez des pages innombrables et très belles de Pélie sur ce thème. Vous avez des pages aussi qui regardent sur cette universalité qui s'incarne dans la plus pure singularité. Ce petit village. Mais le mystère laïque, on a aussi des mystères en laïcité. C'est qu'un lieu d'hérité. Pas du tout parce qu'il retrouve sa mémoire, mais en fonction précisément de sa misère, en fonction de ce qu'il a subi, etc. Soit comme le témoin irrécusable d'une mémoire du monde. Je ne veux pas dire qu'il faut le mettre en musée, qu'il faut le conserver comme ça. Tout ce qui s'y passe vaut pour une mémoire du monde. Tout ce que les gens y font actuellement vaut pour une mémoire du monde. C'est à eux de se rappeler. Je ne suis pas en train de dire le tiers-monde, il faut qu'il reconquiert sa mémoire. Je dis que toutes les actions des pays actuellement, pauvres, misérables, exploités, etc., c'est que chaque chose qui s'y passe s'inscrit comme une mémoire du monde. Alors, ce n'est pas étonnant pense qu'au cinéma, qui la presse, l'exemplaire, c'est de tous ces cinémas les plus avancés, il me semble, c'est quand même le cinéma canadien. Je crois qu'un type comme Perrault a une importance, dans le cinéma moderne, mais une importance fondamentale, fondamentale. Alors bien sûr, il se fait traiter par la génération jeune, un peu de vieux con, sous la forme « tu nous embêtes » avec tes histoires de mémoire. Et je crois que c'est parce qu'il n'a pas été compris. Il ne prétend pas du tout que les Québécois, s'il le prétend, je ne peux pas dire c'est moins clair que je ne dis, bien sûr, les Québécois, il faut qu'ils retrouvent leur mémoire. Il le dit, mais il dit quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus beau. Il faut aussi que le Québec vaille et que dans ce lieu-là, entouré par une toute autre civilisation, il faut que s'inscrive la mémoire du monde, pour une mémoire du monde. Alors là, la mémoire du monde est en retard. Le temps n'est pas quelque chose qui détruit, quelque chose qui conserve. La forme sous laquelle le temps conserve, c'est la mémoire du monde. Et bien, la mémoire du monde, elle est au Québec. Ou bien, elle est aux Philippines. Elle n'est pas dans nos bibliothèques.
Vous êtes bien sur France Culture.
Dans ce deuxième extrait, daté du 13 novembre 1984, Deleuze revient sur ce qui lui paraît une fonction essentielle du cinéma moderne, rétablir le lien de l'homme avec le monde. L'une des formes de ce lien repose, chez certains cinéastes, sur l'importance qu'ils donnent au corps, sur leur manière de les filmer. C'est par le corps que le lien de l'homme avec le monde peut être rétabli, grâce au cinéma.
Je disais, le deuxième aspect, la deuxième mutation de la pensée, c'est donnez-moi un corps. Et j'avais dit la dernière fois, ben oui, c'est plus le corps qui gêne la pensée. Dans le modèle du savoir ou de la connaissance, ben, le corps, il sépare la pensée d'elle-même. Maintenant, non. Donnez-moi un corps. Donnez-moi un corps ou redonnez-moi des raisons de croire au monde, c'est pareil. Un texte admirable d'Artaud, Position de la chair, le dit. On le dit, c'est un texte si beau. C'est dans le tome 1 des œuvres complètes. On voit très bien l'identité. Retrouver des raisons de croire au monde. Redonnez-moi un corps. Il y a des cris intellectuels, des cris qui proviennent de la finesse des moelles. C'est cela, moi, que j'appelle la chair. Je ne sépare pas ma pensée de ma vie. Il faut avoir été privé de la vie, de l'irradiation nerveuse de l'existence, de la complétude consciente du nerf, pour se rendre compte à quel point le sens et la science de toute pensée est caché dans la vitalité nerveuse des moelles, qui font un sort, etc. Je suis un homme qui a perdu sa vie et qui cherche par tous les moyens à lui faire reprendre sa place. Il est évident que dans le texte d'Artaud, c'est la seconde partie de la phrase qui compte. Et que très souvent, nous lecteurs d'Artaud, nous avons le grand tort de nous contenter de la première partie et de parler de la démolition d'Artaud, de la destruction d'Artaud, qui serait comme la rupture avec le monde, la perte de monde chez Artaud. Or, Artaud n'a jamais saisi la perte de monde que dans un effort pour se redonner des croyances. Et par quels moyens ? Il essaiera tout. Comment retrouver des raisons de croire au monde, c'est-à-dire les raisons de croire au monde qui forcément passent par la chair, d'où passent par le corps, d'où position de la chair, s'intitule le texte. Et sa première réponse sera le cinéma. Et on aura à voir de plus près ce qu'il voulait dire. Parce que très bizarrement, en employant un langage très proche de celui des premiers cinéastes, il dit quelque chose, il me semble, radicalement nouveau. Chaque fois que vous lisez Artaud, il faut que vous pensiez à ça. Ce n'est pas un homme qui dit simplement « je suis un homme qui a perdu sa vie ». Il ajoute « et qui cherche par tous les moyens à lui faire reprendre sa place ». Je suis en quelque sorte l'excitateur de ma propre vitalité. Pour moi qui dit chair, dit avant tout appréhension, poil hérissé, chair à nu avec tout l'approfondissement intellectuel de ce spectacle de la chair pure et de toutes ses conséquences, etc. Alors, en effet, que ça passe par le corps. être forcé. Donnez-moi un corps. Alors, est-ce que ça veut dire tout est permis là-dessus? Chaque fois, il y a des contresens, puis on ne peut rien condamner. Moi, je ne sais pas si c'est des contresens. Est-ce que ça veut dire une culture du corps? Est-ce que ça veut dire une cérémonie du corps? Est-ce que ça passe par une magnification du corps? Non. Est-ce que ça passe par la santé? Non. Donnez-moi donc un corps, c'est pas ça. C'est pas ça. Comprenez que ça engage bien autre chose. Donnez-moi un corps si fragile qu'il soit, c'est pas un corps bien fait qu'on demande. C'est un corps tout court. Peut-être que les gens qui ont un corps très bien fait, ils n'ont pas de corps tout court. Redonnez-moi un corps, c'est redonnez-moi un lien avec le monde. Alors je connais des athlètes qui sont en pleine perte de monde. Pensez aux pauvres petites gymnastes. Les petites gymnastes, on ne peut pas dire, elles sont vraiment dans une vitrine. Un corps d'athlète, ça fait complètement partie du monde des vitrines, c'est-à-dire, elles ont beau avoir des chaînes sensorimoteurs qui ont l'air en bon état, absolument pas, elles sont en pleine rupture sensorimotrice, c'est la catastrophe. Elles ne croient plus à rien, en tout cas, elles n'ont aucune raison de croire, c'est pas ça, donc avoir un corps, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être, avoir un corps? Bon. Spinoza, Ftizik, il avait un corps. Lawrence, Ftizik, il avait un corps. Ça n'allait pas fort. Nietzsche, migraineux, à moitié aveugle, il avait un corps. Qu'est-ce qui passait par ce corps? Un lien avec le monde, un rapport avec le monde. Une croyance. Bon, très bien. Je dis, chez Kierkegaard, chez Nietzsche, etc., vous trouverez ce même thème. Un corps. Il nous faut un corps. L'homme n'a plus de corps. Si bien qu'il faut que vous liez les deux questions. Et là, c'est pour ça que l'enchaînement me paraît absolument. Retrouver des raisons de croire au monde, c'est se redonner un corps. Et les deux s'enchaînent absolument. Du coup, je pouvais faire un détour nouveau, comme une espèce de rencontre avec le cinéma, au niveau de cette seconde chose. Donnez-moi donc un corps. Et je disais le même cinéma, qui prend pour charge, peut-être, chez Bresson, chez Dreyer, chez Godard, chez bien d'autres, peut-être, qui se proposent de nous redonner donc un lien avec le monde, de nous redonner des raisons de croire à ce monde-ci. Ce même cinéma, je disais, va être un cinéma des corps. Et qu'est-ce que ça veut dire, un cinéma des corps, là aussi? Ça veut dire un cinéma où les réactions sensorimotrices seront remplacées. On est toujours dans le régime de la perte de monde, c'est-à-dire. Vous comprenez, redonnez-moi un monde ou redonnez-moi un corps, ça ne veut pas dire refaites-moi des chaînes sensorimoteurs. Ça ne veut pas dire redonnez-moi le monde du savoir, non, le vieux monde du savoir. Puisque c'est la croyance qui va nous le redonner. Ce sera évidemment un monde d'un tout autre type, ce sera un corps d'un tout autre type. Ça ne marchera plus avec des réactions sensorimotrices, ça marchera avec... Bon. Et je vous le disais, il y a quelque chose de très curieux, c'est là qu'apparaît tout un cinéma, dans l'image cinématographique, les enchaînements sensorimoteurs. Dans toute une partie du cinéma moderne sont remplacés par quoi? Des enchaînements d'attitude ou de posture. C'est le cas de dire qu'il n'y a plus d'histoire. Une histoire, si j'essaie de définir formellement la notion d'histoire, je dis une histoire... C'est le déroulement des chaînes sensorimoteurs. Vous voyez pourquoi? Excitation, action, nouvelle excitation, action. Les déroulements de chaînes sensorimoteurs constituent des histoires. Quand nous sommes dans des situations optiques pures ou sonores pures, on est quelque chose comme devant une vitrine. Il n'y a plus d'histoire. En revanche, qu'est-ce qu'il y a? Ça va être un étrange cinéma. Je disais, regardez, une partie des films modernes. Il y a bien sûr une simili-histoire, mais qu'est-ce qui les intéresse? Un enchaînement de postures du corps. Des postures de corps qui s'enchaînent les unes avec les autres. Les corps qui se cognent, qui s'embrassent, bon, qui s'appliquent au mur, qui glissent, je disais, l'image archétype de ce cinéma. Bon. Et puis les deux corps qui se cognent et puis qui s'embrassent. Qu'est-ce que c'est que cette logique des postures? On nous convie à découvrir toute une logique des postures qui a remplacé la logique de l'action. Et je citais parmi les grands auteurs modernes, je n'ai pas besoin de développer, puisque tout ça, on le verra, j'espère, très précisément plus tard. Je citais dans le cinéma moderne, à mon avis, en France, ça a été un des pôles, je ne dis pas le tout, mais un des pôles fondamentaux de la nouvelle vague. Ça a été le cinéma des corps chez Godard et chez Rivette, qui enchaîne des postures. Si vous pensez encore là, à une grande scène de Prénom Carmen, les deux amants, là, qui se coincent dans les portes, dans les fenêtres, tout y passe. On ne peut pas dire que ce soit une histoire. C'est un enchaînement de postures, mais à toute vitesse. Deux bolides qui enchaînent leurs postures différentes. C'est les grands moments de Rivette. Et quand je disais, c'est pas du théâtre, et c'est par là que c'est du cinéma. C'est qu'en effet, ces enchaînements de postures sont proprement cinématographiques. Et se comparent perpétuellement au théâtre. Chez Rivette, il y a la référence explicite au théâtre, mais c'est hors théâtre que les personnages entrent dans des postures. C'est par rapport à une pièce de théâtre supposée que les corps, chez Rivette, vont entrer dans des postures autonomes qui ne doublent pas les attitudes théâtrales de la pièce et qui rivalisent et qui constituent la vraie matière cinématographique. Dans la post-nouvelle vague, que ce soit Ackermann, je disais, que ce soit Eustache, que ce soit, une fois dites les attitudes, son vocal, sont sonores autant que visuels. Que ce soit Ackermann, Eustache, Garel, Doyon, vous avez le développement. J'ai l'air de nier leur originalité, je crois au contraire très profondément à leur originalité par rapport à la nouvelle vague. Et c'est un cinéma des postures et des attitudes. Et je disais en Amérique, c'est Cazavetes. Cazavetes étant sûrement le plus grand. Avoir fait un cinéma des corps qui se développait d'autre part dans tout le cinéma expérimental américain, parfois sous des formes cérémonielles, sous des formes rituelles, mais avec toutes les transitions entre attitude quotidienne, attitude cérémonielle. Ce que je veux dire alors, c'est que vous avez un lien des attitudes ou des postures entre elles qui n'est plus du tout un lien sensorimoteur. Et c'est pour ça que je vous proposais d'emprunter à Brecht un mot qui me paraît très bien, le mot de gestus, pour désigner le lien des attitudes entre elles. Si bien que tout ce cinéma, toute cette image cinématographique ne sera plus narrative, elle exposera un gestus, et ce sera à nous de découvrir le gestus, c'est-à-dire l'enchaînement des postures, l'enchaînement formel des attitudes entre elles. Et qu'est-ce que c'est? Et en quoi le gestus dépasse les attitudes de corps? Est-ce que Brecht a raison de penser que tout gestus doit être social ou politique? Je prends là un exemple rapide que je crois ne pas avoir pris. Si vous reprenez Prénom Carmen, je dirais les attitudes de corps, par exemple les amants, renvoient à un gestus qui est distribué d'une manière très très complexe, mais qui est en partie le gestus musical, à savoir au sens où l'arrondi du bras de la violoniste, par exemple à un moment, vient fournir le gestus correspondant à l'attitude des deux amants lorsque l'un, dans un arrondi de bras, prenait l'autre. Et que donc il y aura tout un système de résonance et d'écho, d'écho visuel, d'écho sonore, etc., où l'enchaînement des attitudes de corps se fera selon un gestus à la fois politique, social, esthétique, musical. Et tout ce cinéma sera très très compliqué. Ce sera le cinéma, la lettre du « Donnez-moi donc un corps ». Je suggérais la dernière fois, pour préparer nos analyses futures, que dans l'après-nouvelle vague, me semble aller dans cette direction, infiniment loin, quelqu'un comme Carrel. Parce que Garel a fait un truc qui, à mon avis, n'avait jamais été fait au cinéma. Jamais. À savoir, il a profité de quelque chose qu'on reprochait au cinéma comme un manque. À savoir, ne pas nous donner la présence des corps. Par opposition au théâtre, où le corps est présent. Lui, il a retourné pour en faire une supériorité du cinéma, à savoir le cinéma. À l'être capable de nous faire assister au processus de constitution des corps. Alors ça a l'air abstrait, mais comment il fait pratiquement? Vous devez le sentir, ceux qui ont vu des films de Garel ou qui
Il le fait précisément en donnant une importance qui paraît à première vue démesurée à l'image blanche et l'image noire et toutes les variétés qui va être le matériau à partir duquel se produit la constitution des corps. Et ça va être un cinéma extraordinaire. Ou alors le gestus et l'attitude vont entrer en perpétuelle résonance à partir des trois corps fondamentaux. Les trois corps fondamentaux, c'est la femme, l'homme et l'enfant. Et ce sera les trois corps fondamentaux du cinéma de Garel, l'entourant. Et elle a, si vous voulez, me semble infiniment créateur en sens. Bon, mais si j'essayais de résumer un tout petit peu, je dirais uniquement, voyez la cohérence entre mes deux points. Mes deux points, c'est que mon second point consiste à dire les attitudes du corps. Les attitudes ou postures du corps. Ne croyez surtout pas que ce soit des réactions. Nous ne sommes plus dans le monde du chêne sensorimoteur. C'est quoi? C'est à la lettre des éléments de croyance. C'est les éléments constituants de la croyance. C'est par là que les deux points s'enchaînent. C'est les éléments constituants de la croyance. Ça nous permettrait de comprendre d'une autre façon, et je crois plus exact, le abéticisme de Pascal. Parce que Pascal dit, vous voulez croire? Croire, c'est quoi? Croire, c'est prendre une posture. Prenez une posture. Alors, on comprend généralement au sens de prenez l'habitude de vous agenouiller et faire votre prière, etc. Évidemment, il veut dire autre chose. La croyance s'écrit à la lettre, se constitue. Les postures sont les éléments génétiques de la croyance. Si bien que on passe tout naturellement du premier point, substitution de la croyance au savoir, au deuxième point, promotion des cinéma des attitudes, promotion plutôt des attitudes du corps, parce que ça ne vaut pas seulement pour le cinéma, car c'est par l'attitude du corps qu'un lien avec le monde peut être redonné, ou qu'une croyance au monde, à ce monde-ci, peut être redonnée, avec tous les dangers que ça comporte, encore une fois. À savoir que la posture devienne cérémonielle, comme dans une tendance du cinéma expérimental, ou bien que la posture devienne uniquement quotidienne, comme dans une autre tendance du cinéma expérimental. Qu'est-ce que c'est au juste? Je veux dire, dans les deux cas, il n'y aura plus de gestus. Quand le gestus devient uniquement théâtral, ou quand le gestus se dissout dans la quotidienneté, il n'y a plus de gestus. Notre question, ce serait, à quelles conditions, pour reprendre cette très belle notion de Brecht, à quelles conditions y a-t-il un gestus qui soit réellement un enchaînement de postures, un enchaînement des attitudes du corps, par lesquelles une croyance au monde nous est redonnée ?